matin, nous voulons t'élever dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette assemblée, Seigneur mon Dieu. Nous voulons t'élever au roi des gloires. Toi, le seul capable de changer, de transformer tout un être, Seigneur mon Dieu, afin de le rendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, digne et parfait par rapport à toi, Jésus. Nous te louons, te bénissons, parce que ce n'est pas au hasard que tu nous as appelés à ce rendez-vous. C'est parce que tu es là, tu es présent, Seigneur, et tu veux nous faire à tous du bien. Seigneur, ce matin, nous voulons dire, nous voici, disposés, Seigneur, à t'écouter. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Permets qu'elle trouve la place qu'il faut dans chacune de nos vies et qu'elle apporte la transformation dont nous avons besoin afin que, Seigneur, nos vies puissent servir à ta gloire. Bénis chacun de nous et permets, Seigneur mon Dieu, que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Les jours avancent trop vite. Il y a quelques dimanches avant la Pentecôte, on nous a entretenus sur la promesse divine et son accomplissement. Vous vous souvenez? Et après ça, on nous a entretenus sur la bénédiction qui attire la jalousie. Waouh! C'est une question de nous appeler à la prudence. Soyons prudents. Dieu me bénit, mais je dois marcher vraiment de façon digne pour que même quand on sera jaloux, que cela ne me fasse rien. Parce que moi, je suis caché avec Jésus dans les lieux célestes. Amen. Ce matin, j'aimerais continuer quand même avec les mêmes textes. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 26. Il y a tellement beaucoup de bonnes choses dans ces chapitres-là. Genèse chapitre 26, nous allons commencer notre lecture au verset 7. C'est toujours la même histoire. Je crois que nous allons commencer au verset 7 pour gagner du temps. Genèse 26, verset 7, la Bible dit, « Les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme. Il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne les tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peut-ce qu'il a fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables ?» Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Un court texte dans une longue histoire, parce que le chapitre 26 raconte l'histoire d'Isaac. Mais juste une petite portion que j'ai prise, et j'aimerais que nous constations ensemble que lorsque on pose la question à Isaac, la Bible dit, il répond, c'est ma sœur. Et je me dis, Isaac répond avec légèreté. C'est-à-dire, Isaac parle avec beaucoup de facilité. Et quand on lui repose la question, pourquoi tu as dit ça? Il dit, j'ai eu peur de mourir. Il refuse de mourir, il préfère répondre de façon légère. Alors, Isaac il répond tout simplement, mais il ne s'est pas rendu compte d'une chose. Lorsque nous donnons des fois certaines réponses, nous ne nous rendons pas compte. Il ne s'est pas rendu compte d'une chose. C'est que ces gens-là pouvaient se poser aussi la question. Mais à son âge, pourquoi il doit se promener avec sa sœur? C'est logique, non? À 30 ans, 35 ans, 40 ans, pourquoi tu dois te promener avec ta sœur en voyage? Et vous êtes seulement là, vous deux. Sûrement, les gens se sont posé des questions. Il a dit, c'est ma sœur, mais pourquoi? Alors ça, c'est moi, maintenant, j'ajoute. Sûrement, ils se sont dit, non, nous allons les épier, voir. Est-ce que c'est réellement sa sœur? Jusqu'au jour où Pharaon lui-même a vu. Et Abimelech lui-même a vu. C'était lui le roi. Il a vu. Et quand il a vu, il a dit, cet homme nous avait piégés. cet homme nous avait piégés. Isaac ne s'était pas rendu compte que cette femme pouvait aussi intéresser directement quelqu'un d'autre. Il avait parlé avec légèreté. Et ce matin, j'aimerais juste nous proposer un petit thème. Être vrai dans ses paroles. Être vrai dans ses paroles. Oh, bien aimé, quand je me préparais moi-même, je me suis remise en question. Et c'est ça qui m'a fait intéresser quand dans ce texte ici, être vrai dans ses paroles. Si nous comprenons ce qui s'est passé ici, toi et moi, nous allons veiller sur toutes nos conversations. Nous allons veiller sur ce qui sort de nos bouches. Nous en avons tous besoin. Nul n'est exempté. Et j'aimerais tirer juste deux points de ce texte pour traiter ces sujets. Le tout premier, c'est ce que j'appelle matching ou correspondance. Matching ou correspondance entre mes dires et mes actes. Waouh! Moi-même, j'ai commencé à réfléchir. La correspondance qu'il y a entre ce que moi j'ai dit et ce que moi je pose comme acte. Isaac a dit, c'est ma sœur. Ce sont ses dires à lui. Mais on a vu les actes d'Isaac, on prouvait que ce n'était pas sa sœur, c'était sa femme. Combien de fois moi aussi j'ai eu à faire des choses comme ça? Combien de fois j'ai eu à dire des choses comme ça? Combien de fois? Lorsque, bien aimé, il n'y a pas une correspondance entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, on peut aussi appeler ça mensonge. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que nous disons. Quand quelqu'un dit des choses et ne les fait pas, c'est un menteur. Oui. Ou ce n'est pas vrai ce qu'il avait dit, c'est un menteur. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Déjà dans Exode chapitre 20, verset 16. Je ne vais pas lire, hein, on a encore la Sainte Cène. Je vous donne juste les versets, je paraphrase. Exode 20, 16, verset 16 et Lévitique 23, 1. La Bible nous interpelle déjà dans les commandements, les 10 commandements, à faire attention sur les faux témoignages ou encore sur les mensonges selon certaines versions. Donc c'est déjà une interpellation pour toi et moi pour que nous puissions veiller sur ce qui sort de notre bouche. Alors bien aimé dans les Seigneurs, la même Bible déclare que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. La Bible ne nous dit pas ceux qui mentent beaucoup ou ceux qui mentent peu. La Bible dit les menteurs. Maintenant, moi, comment je vais peser si moi je mens un peu seulement ou si je mens beaucoup? Sinon, veillez seulement sur mes paroles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Apocalypse 21, 27. Apocalypse 21, 27. Apocalypse 22, 15. Ces deux passages parlent de dehors les menteurs et ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. J'espère que parmi nous, nous sommes exemples de ces choses. Un accident peut arriver. On se répand dès qu'on réalise, mais que nous ne sommes pas de ceux qui aiment les mensonges. Il y a des gens bien-aimés, dès qu'ils ouvrent la bouche, la phrase qui va sortir, c'est un mensonge. Dès qu'on ouvre la bouche, c'est à se poser des questions. Comment ces personnes sont tellement habiles pour rassembler ce qu'il faut et bien présenter ça de telle sorte qu'on puisse même emballer la personne qui écoute jusqu'à ce que ça lui prenne un peu de temps avant qu'elle comprenne que c'était un mensonge. Et Jacques, chapitre 3, 9 à 11. Jacques, chapitre 3, 9 à 11, va dire ceci. Est-ce que d'un même robinet ou d'une même bouche, on peut faire sortir ce qui est amer et ce qui est doux? On peut avoir l'eau chaude et l'eau froide qui sort et chacun reste dans son état, pas devenir tiède. La même source peut-elle produire des choses mélangées? Tiens, quelle sorte de source? Isaac a trouvé que c'était facile. Isaac, c'est qui? C'est ma sœur. Isaac, c'est qui? C'est ma sœur. Et sûrement, il y avait des gens qui commençaient à regarder. La sœur en question, elle est très belle. Hein? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire ou de dire? Bien-aimé, si je suis appelé à faire attention, hein, pour être vrai dans mes paroles, donc je dois, premièrement, éviter de trop parler. Hein? Je dois éviter de trop parler. Parce que si je parle trop, je serai obligé de débiter certains mensonges pour pouvoir m'en sortir. J'essayais de me souvenir quand nous étions petits, hein, avec des petites filles, là, on jouait et tout. Des fois, on racontait de ces histoires-là, vous vous posez des questions au jour d'aujourd'hui si c'est vrai, si c'était vrai. Mais à cette époque-là, on croyait. Tu vas raconter aux gens comme une fille qui raconte. Moi, à la fin de l'année scolaire, je viens de passer des classes. Je viens de passer des classes. Alors, tout le monde était content, non? Ah, moi, je passe en troisième. Moi, je passe en quatrième. On raconte. À la rentrée, maintenant, puisque tout le monde va voir, et raconte ceci. Dans notre école, on n'a pas trouvé de banc pour moi dans la classe dans laquelle j'ai passé. Il n'y avait pas une place vacante pour moi. Alors, notre monsieur a décidé de mettre pour moi un banc dans la classe inférieure pour que je... Mais à cette époque-là, on gobait, hein? Ok, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Mais maintenant, comment on peut étudier? Monsieur va enseigner en quatrième et puis vient en troisième pour t'enseigner toi. Est-ce que c'est normal? À cette époque-là, on gobait. Mais il y a des fois, même au jour d'aujourd'hui, même des chrétiens nous racontent des histoires à dormir debout. Est-ce que nous pouvons faire attention? Isaac n'avait pas réalisé qu'il y avait des conséquences. Isaac ne s'était pas rendu compte des conséquences. Et l'impression que j'ai, hein, Isaac ne connaissait pas l'histoire de son père. Vous connaissez l'histoire de son père? Il a connu la même expérience, n'est-ce pas? Malheureusement, avec lui, c'était aller plus loin. Et ça encore, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Isaac n'avait pas réalisé, c'est Abimélec qui vient lui dire, paix, ça n'est fallu que l'un d'entre nous couche avec ta femme. Bien-aimé, évitez de trop parler. Vous avez une personne qui m'a intéressé quand je parle d'éviter de trop parler, hein? C'est Nicodème. Nicodème, là, en général, nous connaissons son histoire dans Jean chapitre 3, hein, où Nicodème est venu de nuit vers Jésus. Quand il vient de nuit, c'est-à-dire il a peur, n'est-ce pas? Il ne veut pas perdre son poste, il ne veut pas perdre son titre, son autorité dans les pays où on le connaît, c'est un grand homme. Il ne veut pas, il vient la nuit et personne ne me voit. Peut-être même qu'il s'était déguisé. Mais quand on lui a dit de naître de nouveau, la Bible nous dit Nicodème est rentré déçu, fatigué, mais la Bible ne fait plus de commentaires. Nous sommes au chapitre 3 de Jean. Mais vous savez quoi? Au chapitre 19 de Jean, verset 39, on retrouve Nicodème. On dit, lorsque maintenant Jésus est mort, hein, il y a d'abord Joseph d'Arimathée, donc les gens, les disciples de Jésus en secret. Il y a Joseph d'Arimathée et il y a Nicodème. Oh, Nicodème, tu t'étais converti, tu croyais en Jésus. Mais ça fait partie des gens qui, je n'ai rien dit, je n'ai pas donné de réponse. Mais je suis parti, ça m'a travaillé, j'ai pris une décision. Des fois, parler, hein, n'aide pas. Mieux vaut fermer la bouche et poser l'acte. Ça vaut plus que parler. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, le temps me manquerait de commencer à aller dans certains détails, mais je crois que tous nous comprenons et nous sommes d'accord que lorsque nous parlons un peu trop, nous risquons de faire sortir des choses qu'il ne faut pas. D'où la première des choses, je dois éviter. Si je veux une correspondance entre mes dires et mes actions ou mes faits, je dois éviter de trop parler. Quand est-ce que je dois parler? Qu'est-ce que je dois dire? Comment est-ce que je dois les dire? Tout ça, ce sont des choses que je dois considérer. La deuxième chose, toujours dans mon sous-point de la correspondance entre les dires et les actes, c'est le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée, bien aimé, c'est d'abord l'exécution de ce que nous disons. Ça, de façon simple, la plupart d'entre nous parents ici, on a fait la promesse. Ne pleure pas, hein? Vous connaissez, non? Ne pleure pas, à mon retour, je fais quoi? Je vais amener un bonbon, hein? Ou un biscuit, hein? Pauvre enfant aussi fait quoi? Il croit, il s'était, il reste calme. Au retour de papa et maman, l'enfant vient tomber dans les bras de papa et de maman avec beaucoup de joie. Mais l'enfant, comme il est enfant, il ne réalise pas que je dois demander où est mon biscuit, où est mon bonbon. Et nous profitons de ça. Hein? Nous profitons de ça. Mais maintenant, quand nous profitons de ça, l'enfant aussi dit, hein, moi aussi quand je vais avoir même 15 ans, 16 ans, petit frère, je peux lui dire aussi, calme-toi, à mon retour. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore vu ça à la maison. Moi, j'ai vu ça, petit frère, grand frère faire à petit frère aussi la même chose. Calme-toi, à mon retour, le modèle vient d'où? Et demain, nous allons dire, l'enfant a appris à mentir. Il ne faut pas mentir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Vous savez, ces choses sont compliquées. Même moi qui vous parle, j'ai besoin de, que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Je suis allé loin. J'ai commencé à réfléchir dans les couples. Dans les couples, vous savez, quand nous sommes à deux là, je vais t'acheter les vélos. Vous connaissez? Et le lendemain matin, madame attend le vélo. Elle attend, ça ne vient pas. Elle commence à regarder. Et le vélo en question. Bon, mais c'est mon mari, hein? Qu'est-ce que je peux bien faire? Je l'aime, non? Même s'il n'y a pas de vélo, c'est pas pour ça que je l'avais aimé. Donc je continue à l'aimer. Et puis après, il y a encore une autre promesse. Et puis après, et puis après. Et puis, elle commence à te regarder. Elle dit, j'aime mon mari, mais il me ment beaucoup. Mais il n'ose pas te dire que tu mens. Elle n'ose pas. Parce que tu es son mari. Elle t'aime. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Mais les dire. Attention. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous promettons? Dans notre joie, dans notre euphorie, qu'est-ce que nous promettons? Qu'est-ce que nous disons? Bien-aimés, ce sont des choses terre à terre, mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Isaac a voulu se protéger. C'est-à-dire, Isaac a vu son intérêt. Même quand j'agis aujourd'hui, quel que soit l'endroit où je me trouve, bien aimé, je regarde d'abord mon intérêt. L'enfant à qui j'ai dit, je vais t'apporter des biscuits. C'est mon intérêt. J'ai déjà calculé. Si je marche avec lui, il va encore être lourd pour moi. Je vais faire... Non, que l'enfant reste. Je vais me débrouiller. Pour qu'il reste, je trouve une solution. Mon intérêt. Partout où je passe dans la société, je pose ce genre d'acte. Mon intérêt. Isaac ne voulait pas la mort. Moi aussi, je ne veux pas la mort. Bien-aimé, la Bible dit, Matthieu 23, 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Nous connaissons, non? De qui on parle? Nous connaissons. Les pharisiens. Qu'on ne dise pas cela de toi et moi, s'il vous plaît. J'ai même envie d'aller loin pour dire, vraiment pardonnez-moi toutes les fois où moi j'ai dit et j'ai manqué. Que Dieu nous aide quand nous entendons ce genre de choses pour que nous soyons des personnes transformées. Combien de fois nous disons de bonnes choses, mais nous ne les faisons pas? Combien de fois? Ce que nous disons, combien de fois nous ne les faisons pas? Le respect de la parole donnée, bien aimé, c'est honorer aussi ses engagements. C'est ça, respecter la parole donnée. J'ai donné une parole, je me suis engagé, je respecte. C'est respecter. Mieux vaut ne rien dire que parler. Nombre 30, verset 3. La Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment, pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Si vous lisez, vous allez voir plus loin, ça continue avec l'histoire de la femme qui est sous l'homme. C'est vrai. Mais si vous allez dans Proverbes, le temps me manquerait de commencer à lire tous les versets avec vous. C'est là où vous allez comprendre que cette affaire nous concerne tous. Proverbes 17, 18, que vous pourrez lire. Proverbes 17, 18. 20, 25. 22, 26. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous engageons dans des choses, mais nous ne réalisons pas. Ce n'est pas une bonne chose. Remarquez avec moi que parler, c'est facile. Parler, c'est facile. Des fois, on n'a même pas le temps de beaucoup réfléchir. C'est facile. Mais exécuter ce qui sort de nos bouches pose un problème. Et c'est ça la raison du fait que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses non accomplies. On t'a fait des promesses qui ne sont pas accomplies. Tu as fait des promesses qui ne sont pas accomplies. Et demain, nous sommes tous en train de pleurer. Mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie? Oh, j'aime les femmes comme Anne, la mère de Samuel. Anne, la mère de Samuel, fait un vœu à l'Éternel. Elle fait une promesse. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le donner. Bien-aimé, je me suis toujours posé la question. Parce que la Bible dit, dès que le petit Samuel fit ses vœux, Anne l'a amené à l'église, au temple. Dès que le petit a été sévré, il a été amené au temple. Il a été sévré à quel âge? À quel âge le petit là est parti au temple? Et la Bible nous dit, il dormait où? Dans les temples, pas dans une chambre. Alors, vous pouvez vous imaginer, je suis mère, j'essaie de m'imaginer, mon fils, quel âge? Même si je disais qu'il a été sévré à 5 ans. Un enfant de 5 ans, nous savons comment il se comporte, non? A-t-il besoin d'une maman ou pas? Mais maintenant, la Bible nous dit que cet enfant a été amené au temple. Sa maman partait le voir une fois l'an pour lui amener la nouvelle robe. Promesse faite, promesse réalisée. Et si vous continuez dans le chapitre suivant, vous allez voir que Anne n'a pas eu qu'un seul enfant. Anne, Dieu l'a béni avec d'autres enfants. Mais moi et toi, nous avons pris des promesses même par rapport à Dieu. Nous avons pris des engagements, pardon, même par rapport à Dieu. On ne les a pas honorés. Désormais, comme tu m'as donné du travail, tu auras toujours la dîme. Je vais donner les offrandes, pas comme je donnais avant. Désormais, comme tu m'as donné un travail, je serai toujours présent dans l'église. Désormais, parce que tu as fait, je lirai toujours ma Bible. Mais après 3 mois, tu réalises toi-même que tu n'as pas accompli ce que tu avais dit. Et tu veux seulement, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Vous savez, notre société est malade parce que nous parlons plus bénédiction au lieu de parler de comment je peux marcher avec celui qui bénit pour être béni. L'enseignement ou les prédications sur la bénédiction, sans savoir comment tu dois te comporter, ne tiennent pas. Ne tiennent pas. On ne peut pas apprendre seulement à savoir comment papa doit me donner, sans savoir comment moi je dois marcher pour que papa me donne. Bien-aimé, que Dieu nous aide. La troisième chose, réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de parler. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre et Jésus. Jésus dit à Pierre, « Pierre, cette nuit même, tu vas me renier. Seigneur, moi là, moi vraiment moi, tu me vois moi, est-ce que je peux te renier ?» Les coqs chantent seulement comme ça, Pierre se souvient. Et la Bible dit, il regarde Jésus, Jésus le regarde. Pierre, je t'avais dit quoi? Tu ne comprends pas grand-chose. Tais-toi. Avant de répondre, réfléchis. On raconte cette histoire, c'est une histoire qu'on raconte. Une belle-mère est venue assister sa belle-fille qui a accouché. La belle-mère est dans la joie, ma belle-fille a accouché. Et quand elle est arrivée, je ne sais pas combien de jours après, la belle-fille devrait aller avec l'enfant à l'hôpital. Et comme ils habitaient seulement, donc les couples, les bébés et la belle-mère est restée à la maison, elle s'est dit, ma belle-fille est partie à l'hôpital et elle va sûrement traîner. À son retour, elle doit encore venir faire tous les travaux ménagers, tout ça. Non, moi je vais l'aider. Je vais un peu aider ma belle-fille. La belle-mère s'est élevée de bonne foi. Elle a balayé la maison, elle a terminé, mais elle a fini, elle a arrangé ce qu'elle pouvait arranger, elle a terminé. La belle-fille qui revient de l'hôpital, elle n'a pas aussi réalisé que qui était à la maison. Elle est entrée dans la maison, à peine entrée au salon, la belle-mère n'était pas au salon. À peine entrée au salon, elle regarde. Oh, mais qui a bougé la table comme ça? Qui a bougé la table? Elle a crié. Hein? Qui a bougé la table comme ça? Qui a bougé la table? La belle-mère était dans la chambre. La belle-mère a entendu la belle-fille crier. Elle s'est tue. Elle n'a pas osé dire c'est moi directement. Elle s'est tue. Elle a laissé la belle-fille qui a crié. La deuxième fois, quand elle a élevé la voix en criant, elle s'est souvenue que c'est la belle-mère qui était restée à la maison. Donc, si on a bougé la table, qui peut avoir bougé? C'est la belle-mère. Confuse maintenant, elle est entrée dans sa chambre. Mais vous savez quoi? Quand il avait parlé, est-ce qu'elle avait réalisé comme Isaac qu'il y aurait des conséquences? Elle n'avait pas pensé aux conséquences. Elle avait vu seulement sa table. Mais la table, même si on l'a levée, même si on l'a mis dehors, tu peux la remettre dans la maison, non? Quoi de plus facile que de prendre et de remettre? Parce que c'est ma table, je l'aime comme ça. Au lieu de crier, crier fait quoi? Crée des conséquences. Bien-aimés, attention, réfléchissons avant de parler. Ne soyons ni comme cette belle fille, ni comme Pierre. Réfléchissons avant de parler. J'aimerais bien aimer que nous puissions considérer maintenant les implications d'être vrai dans sa parole. Si moi je suis vrai, véridique dans mes paroles, dans ce que j'ai dit, s'il y a une correspondance, y a-t-il des implications ou encore des conséquences? Je vais vous dire, oui, il y en a, et des meilleures. Il y en a. La toute première conséquence, c'est que si je suis vrai, cela permet que je me fasse respecter. Le respect, bien-aimé, ne s'impose pas. Le respect s'acquiert. Donc, ma personne à moi, là, quand les gens me voient, ils vont me respecter. Parce qu'ils savent que moi, là, ma façon de marcher, c'est vraiment de façon véridique dans ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Ça va permettre aussi que lorsque moi, je donne les ordres, que les gens puissent exécuter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que c'est comme si c'était une chaîne. Tu dis aux enfants, ne revenez pas tard, hein, dans ma maison ici. On n'entre pas après 20 heures. Vous connaissez cette chanson-là avec les parents, n'est-ce pas? Et vous voyez papa lui-même revenir à 1 heure du matin, à minuit. Et c'est lui qui dit, ne revenez pas en retard. Attention. Donc les enfants peuvent obéir parce que tu es papa. Mais est-ce que cela est vrai? Et les respects qu'ils te doivent vont commencer à dire, Mais on va pas oser te dire ça en face. Mais toi, tu sais, parce que hier, toi aussi, tu étais enfant. Attention. Bien-aimé, si je suis vrai dans mes paroles, hein, je vais devenir une personne de référence. Je vais devenir une personne de référence. J'étais en train de réfléchir sur les noces de Cana. Si Marie a pu dire aux autres, faites ce qu'il vous dira, c'est parce qu'il savait que ce que son fils dit, c'est ça qui est, ça se réalise. La Bible nous dit aussi dans les livres des Actes que Barnabas est parti chercher Saul de Tarse. Pourquoi il était parti le chercher? Parce que c'était quelqu'un qui était digne de confiance, c'était une personne de référence. Est-ce que tu peux devenir une personne de référence pour tous tes amis de ton avenue? Est-ce que tu peux devenir une personne de référence pour tous tes collègues de classe? Est-ce que tu peux devenir une personne de référence pour tous ces amis-là avec qui vous travaillez? Est-ce que tu peux devenir une personne de référence? J'ai dit oui, le secret est là. Le secret est là. Tu peux devenir une personne de référence. Bien aimé, non seulement que tu deviens une personne de référence, mais tu deviens un modèle. Tu deviens un modèle. La Bible dit, tu es la lumière du monde. Tout le monde te voit, tout le monde peut te copier. Mais maintenant, la réalité, c'est quoi? Lorsque les gens te regardent, ils voient quoi? Ils voient qui? Lorsque les gens te fréquentent, qu'est-ce qu'ils trouvent en toi? Parce que la Bible, dans 2 Corinthiens, va dire qu'il y a un livre ouvert. Qu'est-ce que les gens lisent en toi? Malheureusement, au Congo, c'est chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Je me suis toujours imaginé, si nous tous, nous étions des vrais chrétiens, vraiment craignant Dieu, hein, enlevant chrétiens, disons des véritables craignants Dieu. Bien-aimés, je me suis toujours posé la question, si les dieux des actes des apôtres ne seraient encore plus en action qu'aujourd'hui, qu'il y a quelques temps. Mais ce sont seulement des petites choses, des toutes petites choses qui nous empêchent d'atteindre la bénédiction de Dieu comme il se doit. Que Dieu nous aide. Et enfin, comme implication, nous serons des personnes crédibles. Une personne crédible, c'est une personne qu'on peut recommander même les yeux fermés, parce qu'on connaît que c'est une personne digne de confiance. C'est une personne sur qui on peut compter. J'aimerais conclure en disant ceci. Bien-aimé, la Bible dit... Tout ce qui est écrit dans cette Bible, c'est pour notre instruction. L'histoire d'Isaac, par rapport à cette portion que nous avons eu à lire, est un enseignement pour nous, pour que toi et moi, nous puissions veiller sur ce qui sort de notre bouche. Qu'est-ce que nous disons et quelle est la réalité? Parce que ces deux choses, lorsque nous marchons ensemble avec ces deux choses, bien-aimés, nous serons des personnes bénies, nous serons des personnes crédibles. Et une personne crédible a plus de la valeur, a beaucoup de valeur, même dans la société. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais ce sont des choses qui se vivent. Si vous essayez d'analyser nos vies, chacun de nous, dans les domaines de son travail, essaye d'évaluer jusqu'à quel point tu es une personne crédible. Une personne crédible, c'est cette personne-là qui est capable d'associer ces deux choses. On ne va pas te rejeter dans la société, on est bien avec toi, mais on n'est pas d'accord avec toi sur la façon dont tu fais ton travail, par exemple. Parce que tu es toujours, reviens demain, reviens demain, reviens demain. Nous tous ici, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous allons prier. Élève ta voix et parle au Seigneur. Il est le seul capable de t'aider, de m'aider pour que ma vie puisse être réellement transformée. Pour que je puisse vivre de façon à lui plaire. Pour que je puisse arriver à accorder mes paroles et mes actes. Il est le seul capable. Il est le seul. Et pour que cela se réalise, ça va dépendre de l'état de mon cœur. Ça va dépendre de ma relation avec Dieu. Ça va dépendre du niveau de crainte de Dieu qu'il y a dans ma vie. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Tu le connais, il te connaît. Il connaît même ce que toi tu n'as pas osé dire. Il sait. Et si tu es là, tu trouves que peut-être tu n'as pas une bonne relation avec Jésus, ou tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu peux juste t'élever et nous allons ensemble prier pour toi. Tu es là, tu trouves que tu dois vraiment renouveler ta relation avec Jésus, tu peux t'élever, nous allons ensemble prier pour toi. Et si tu es là, tu trouves que tu as besoin qu'on puisse prier pour toi parce que tu t'es retrouvé dans ce qui a été dit, tu peux t'élever aussi, nous allons ensemble prier pour toi. Merci bien-aimé. Merci bien-aimé. Merci à vous qui vous levez. Merci. Merci à vous qui vous levez. Merci. Lève-toi en prenant une décision. Lève-toi en disant, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi. Dès maintenant, alors que je comprends ces choses, je vais être une personne complètement transformée, libérée. Merci. Merci à toutes les personnes qui se mettent debout. Merci. Dieu te voit, Dieu te connaît. Et Dieu a un seul désir, que tu sois une femme, un homme béni. Et pour que tu le sois, Dieu veut t'aider à être une personne complètement transformée, libérée de ces choses. Y a-t-il une dernière personne alors que nous allons prier? Y a-t-il une dernière personne? Nous allons prier. Merci, merci à vous tous qui vous êtes levés. Merci.
Ton amour. Oui, ton amour qui t'a conduit jusqu'à la croix. Ce matin, Seigneur, tu nous montres encore ta face. Le Dieu vrai. Christ, tu as dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tu ne veux pas notre mort. Non, Seigneur. Ce matin, tu as envoyé ta parole. Et cette parole nous touche. Et cette parole nous guérit. Nous guérit du mensonge. Car tu n'aimes pas le mensonge. Mais tu aimes, Seigneur, que tout homme qui passe par là puisse être sauvé. Et c'est pour cela que ce matin tu as envoyé cette parole, pas pour nous condamner, mais pour nous montrer que lorsque nous fixerons nos regards sur toi, nous serons des hommes vrais, capables de bénéficier de tes bénédictions. Seigneur, tu es là, prends-nous en charge. Prends-nous en charge ce matin. Pour que nous ne tombions plus dans le piège du mensonge, car tout porte à conséquence. Seigneur, merci, parce que tu nous vois et tu nous connais. Tu connais où ça ne va pas, Seigneur. Viens à notre secours, pour que, Seigneur, nous soyons différents de ceux du monde, parce que nous ne sommes pas des semences, quoique nous y sommes. Nous sommes à toi. Seigneur, garde-nous pour toi et relève nos têtes. Bénis toutes ces âmes qui te sont venues ce matin. et qui t'ont donné leur vie. Bénis ta servante pour cette parole qui révolutionne notre mesure et notre regard sur le mensonge. On croit que c'est une petite chose, mais ça brûle nos vies. Seigneur, merci, parce que notre pays en a besoin, nos maisons en ont besoin, nos relations en ont besoin. Oh Seigneur, prends-nous en charge, au nom de Jésus.